jour avec une touche de Larousse.
h 22 dans le Point de Max à Boulevard 102-1. Avant d'aller rejoindre l'ami Georges Mercier, analyste politique, vous rappelez qu'un bulletin météo spécial qui a fait son apparition sur le site d'Environnement Canada dans les dernières heures. On attend de la pluie verglaçante qui pourrait laisser une quantité totale de 5 à 10 mm. De mardi soir à mercredi, quelques régions là, qui pourraient être touchées, et ça inclut Québec ainsi que Chaudière-Appalaches. On précise ce qui est encore de l'incertitude quant à la trajectoire de ce système-là. Les secteurs qui recevront les plus grandes quantités de pluie verglaçante restent encore à être déterminés, mais vous le saurez, puis on pourra vous tenir au courant là, demain de l'évolution des choses, mais possiblement de la pluie verglaçante à Québec et en Chaudière-Appalaches de mardi soir à mercredi, ce qui pourrait évidemment compliquer la circulation pour ce qui est de l'heure de pointe de mercredi matin. Et pour ça aussi, ben, on sera là pour suivre tout ça avec vous. Georges Mercier, on va le rejoindre en direct de la Caroline du Nord. C'est là que t'es rendu, hein, mon ami Georges?
En direct des Outer Banks, où il fait beaucoup plus chaud qu'au Québec quand même.
Oui, ça, j'ai pas de misère à en douter. Présentement, à Québec, c'est 1 degré. On est dans le positif quand même. On va prendre ce positif-là où il est. Georges, on en parlait pendant qu'on discutait ensemble pendant la pause. On se parle chaque lundi, puis il se passe tout le temps quelque chose au courant de la fin de semaine qui fait « Hey, OK, on va se parler ». Mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu le jour de la marmotte, qu'on vient toujours au même. Encore ce matin, Donald Trump qui écrit sur Truth Social qu'il y a des pourparlers sérieux avec un nouveau régime plus raisonnable en Iran, que des progrès considérables ont été réalisés. Mais de l'autre côté, ben, il continue de menacer de s'en prendre aux centrales électriques, aux puits de pétrole. Ce qui est exactement ou presque là, à quelques mots de différence, son discours depuis le début du conflit en Iran.
Ouais, tu as raison de mentionner, Max, que ça sonne comme le jour de la marmotte. Il faut distinguer deux choses. L'opération militaire américaine en ce moment, elle rencontre certains succès. Ça, on le dit moins dans les médias. Mais au niveau des capacités militaires offensives du régime iranien, ça fonctionne. On apprenait la semaine dernière qu'ils auraient réussi à éliminer 66 % de leurs missiles, de leurs avions, de leurs navires. Donc, les Américains parviennent à faire manger une volée militaire aux Iraniens. Le problème, c'est qu'au même moment, le régime, lui, il ne montre pas de signe de défection à l'intérieur, il ne se disloque pas, il n'est pas prêt pour s'en aller. Et c'est pour ça que Donald Trump répète toujours les mêmes menaces. On va s'attaquer aux infrastructures énergétiques, parce que présumément, c'est ce qui pourrait vraiment leur faire mal. Le régime dit, si vous faites ça, très bien, on va attaquer les pays du Golfe, puis on va continuer à prendre l'énergie mondiale en otage. Et tant qu'il n'y a pas d'événements vraiment significatifs, comme par exemple, peut-être, un débarquement américain, de soldats américains, sur une île du Golfe Persique ou même sur la côte iranienne, on n'aura peut-être pas de déblocage.
Et un élément qui est peut-être nouveau, ou du moins dont on parle plus, j'ai l'impression, depuis quelques jours, puis tu viens de mentionner là, le débarquement possible sur une île, c'est l'île de Karg dans le Golfe Persique dont Donald Trump a l'air de parler de plus en plus. Pourquoi cette île-là? Qu'est-ce que ça donnerait? C'est quoi le contexte?
Essentiellement, ce serait si on allait saisir cette île-là, par où passe 90 % des exportations de pétrole de l'Iran. Donc, c'est très, très, très significatif pour la capacité du régime iranien à engranger des revenus. Si on allait la saisir, on se donnerait un outil de négociation. On dirait, regardez, on possède désormais le terminal par lequel, je répète, 90 % de vos exportations passent. Donc, si vous voulez le revoir, ou en bon français, si vous voulez recommencer à faire du cash, vous avez intérêt à nous donner quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut en ce moment? Ben, la fin du programme nucléaire, la fin des missiles balistiques, la fin du financement des proxys qui déstabilisent la région. Le problème, c'est que si on fait ça, qu'est-ce que les Iraniens vont faire? On dit, ben, OK, vous avez volé notre terminal d'exportation, on va s'attaquer aux sites de production énergétique des monarchies du Golfe. Puis le gros problème dans cette guerre-là, c'est que c'est très facile de détruire un puits de pétrole. Ce qui est très difficile, c'est de le repartir et de le réparer. Et donc là, on aurait un scénario qu'on pourrait appeler de destruction mutuelle assurée énergétique si les Iraniens ne pliaient pas, si on saisissait l'île de Karg. Mais ce qui est intéressant, Max, je lisais un article tout à l'heure, Donald Trump en parle depuis les années 80. Donc, c'est pas comme s'il s'était rendu compte que ce territoire-là existait aujourd'hui. Même dans les années 80, il disait, pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre cette île-là? Nous sommes les Américains, nous sommes plus forts, gros muscles, etc., etc. On va faire manger le volet aux Iraniens en prenant leur territoire.
Le Washington Post rapportait en fin de semaine que le Pentagone américain se préparait à envoyer des troupes terrestres en Iran. La porte-parole de la Maison-Blanche a répondu à ça que c'est juste le rôle du Pentagone de se préparer pour donner au commandant en chef un maximum d'options, mais que ça ne veut pas dire que le président a pris une décision. Est-ce qu'elle a raison, la porte-parole de la Maison-Blanche, de dire non, c'est juste c'est, le Pentagone fait sa job, là, de, on est en conflit, on regarde les options, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en va là?
Ben regarde, essentiellement, normalement, en temps normal, il y a 40 000 soldats américains dans la région du Moyen-Orient. Là, on serait rendu à 50 000. Ce n'est pas encore suffisant pour faire une invasion complète de l'Iran. L'Iran qui a une armée importante, qui a une population très nombreuse. 50 000 personnes, ce n'est pas assez. Ce que la Maison-Blanche fait en ce moment, c'est se donner des options pour pouvoir menacer l'Iran, justement. Parce que si on revient à l'île de Kargil, si on n'a pas les militaires en place, on ne peut pas menacer d'aller la saisir parce que notre menace ne va pas être crédible. Donc là, on se donne des options. Ce qui est intéressant ici, c'est que, tu sais, peu importe ce qu'on dit sur la dérive autoritaire des États-Unis, la fin de la démocratie là-bas, etc., ben, les États-Unis d'Amérique, ça demeure une démocratie. Dans une démocratie libérale, les électeurs ont leur mot à dire. Il y a une affaire qu'ils ne veulent surtout pas faire, c'est payer plus cher leur plein à la pompe. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai chez nous. Fait que Donald Trump, dans sa guerre avec l'Iran, il y a un impératif que les Iraniens, eux, n'ont pas. C'est quoi? C'est de garder le prix à la pompe suffisamment bas. Donc, dès qu'il s'adresse au marché, dès qu'il lance des messages comme ça, c'est pour dire aux investisseurs et à ceux qui achètent du pétrole, regardez, ça va peut-être se régler éventuellement, ce ne sera pas aussi pire qu'on pense. Donc, gardez les prix assez bas. Et tant que les prix demeurent suffisamment bas, lui-même peut agir. Mais si on a un baril de pétrole à 200 $ US, là, la population américaine va dire, no way, on ne veut pas qu'on soit dans cette guerre-là. Le président n'aurait plus le soutien nécessaire pour poursuivre la guerre. Et ce serait probablement là, une victoire ou du moins une impasse par rapport à l'Iran.
C'est intéressant ce que tu dis parce que on la voyait, cette stratégie-là de Donald Trump de lancer des messages très rassurants alors qu'on se disait « Ouais, il me semble que ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça, mais si le président le dit, puis les marchés répondaient favorablement, là, fait que Donald Trump était super gagnant de le faire. Mais là, on dirait que dans les derniers jours, puis il l'a refait ce matin, il n'y a peut-être plus les mêmes réponses. Là. Les investisseurs ont peut-être commencé à plus comprendre sa game de « Ouais, il peut bien dire des affaires, Donald Trump, c'est-tu vraiment la réalité? »
Le gros problème ici, Max, c'est qu'il faut distinguer le prix du pétrole sur papier et le prix du pétrole réel. Si le détroit de Hormuz, là, où passait 20 % du pétrole mondial, est vraiment fermé, ça veut dire qu'il y a des millions de barils de pétrole qu'il faut éliminer de la consommation. Comment est-ce qu'on élimine une consommation de pétrole? Bien, on augmente les prix ou on change nos comportements. Puis, il y a un moment où, désormais que les approvisionnements ne se rendent plus, notamment dans les pays asiatiques, la réalité va finir par rattraper les marchés. Et là, si ça arrive, puis il faut éliminer 10 millions de barils de pétrole par jour, le prix, il va augmenter significativement. La grande question, c'est est-ce que les Américains sont capables de mettre fin à la guerre, de trouver un accord avant que le prix réel rattrape le prix papier, qui pour l'instant a encore de l'allure. Et ça, c'est un gros point d'interrogation.
Georges Mercier, on parle énormément de Donald Trump, des États-Unis face à l'Iran. Au point où on a quasiment tendance à oublier qu'il y a un troisième joueur qui est directement impliqué, Israël. Puis là, Donald Trump a bien beau dire que ça va mieux, ça va bien au niveau des pourparlers. Pis, l'Iran et Israël, là, ça continue de se tirer dessus comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis ces deux-là, je veux dire, c'est pas hier qu'ils ont commencé à s'haïr. Y existe-tu vraiment un monde où ces deux-là sont capables de se tolérer, de sentir un minimum?
Tu sais ce qui est intéressant, Max? De tous les pays du Moyen-Orient, l'Iran, c'est celui qui, jusqu'à la révolution islamique, avait les meilleures relations avec Israël. Parce que jusqu'à 1979, l'Iran, qui est une terre persique, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses, s'entendait, acceptait les Juifs, et s'entendait plutôt bien avec l'État d'Israël. C'est lorsqu'on a la révolution islamique, où on a le premier ayatollah Khomeini, qui dit essentiellement, l'Iran, c'est quoi? C'est la mort à l'Amérique, la mort à Israël, que les tensions augmentent. Et donc, pour Israël, contrairement aux États-Unis, la nature du régime en Iran, c'est un enjeu existentiel. Eux, ils font face à un régime qui se donne comme mission de faire sauter Israël s'ils avaient un jour une bombe nucléaire. Donc, évidemment, pour eux, c'est beaucoup plus épeurant, c'est beaucoup plus effrayant que pour les Américains qui sont à l'autre bout du monde. Anyways, ce qu'il faut noter toutefois, c'est qu'en ce moment, l'opération israélienne, elle se réalise avec le soutien des États-Unis. Parce que n'allons pas oublier une chose, Max, les Américains donnent des milliards de dollars par année en aide à Israël. Si demain, ils voulaient dire aux pays, aux Israéliens, on arrête, ils auraient le pouvoir de dire, vous arrêtez.
Ton petit take pour closer ce dossier-là, est-ce qu'il y a des troupes terrestres américaines qui vont débarquer du côté de l'Iran, disons, d'ici 7 jours, d'ici à lundi prochain, ou mardi prochain, on devrait, puisque là, lundi prochain, c'est pas qu'on se parlera pas, mettons qu'on se reparle mardi prochain.
Écoute, je ne devrais pas avouer ça, mais les recherches prouvent que les experts, on est moins bons pour faire des prédictions que monsieur et madame tout le monde. Mais je vais quand même en faire une. Moi, je pense que s'il n'y a pas d'accord, dans les 48 prochaines heures, on va avoir une opération terrestre aux États-Unis dans la semaine, dans les deux prochaines semaines.
La guerre du côté de l'Iran éclipse quand même pas mal ce qui se passe du côté de Cuba, où il y a aussi le fait qu'on n'avait peut-être pas nécessairement juste de mise à jour bien importante à faire dans les dernières semaines. Mais là, dans les dernières heures, Cuba puis la situation à Cuba a repris une place dans l'actualité. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pétrolier russe qui est arrivé à Cuba dans les dernières heures. Est-ce que c'est un point tournant? Est-ce que c'est le début de quelque chose?
Ben ça, c'est vraiment intéressant parce que la stratégie américaine par rapport à Cuba était très simple. C'est essentiellement, on va les empêcher d'importer de l'énergie, on va les étrangler, littéralement, économiquement, puis ils vont être tellement étranglés, le régime va tellement souffrir qu'il n'aura pas le choix de nous donner ce qu'on veut. Là, en permettant à ce pétrolier-là d'arriver à Cuba, il y aurait plus de 700 000 barils de pétrole, c'est donner une ligne de survie au régime. Est-ce que les Américains font ça parce qu'ils veulent faire un gesture of goodwill, montrer qu'ils sont de bonne volonté dans les négociations, et donc leur donner un anane pour que le régime cubain accepte de leur donner d'autres choses? C'est possible. Est-ce que c'est simplement des considérations humanitaires? Là, la situation à Cuba était tellement désastreuse, les gens se faisaient pas opérer, il y avait des coupures de courant qui arrêtaient pas, on s'est dit, même nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, on n'a pas le choix de faire un geste humanitaire.
Mais là, c'est-tu plus clair qu'est-ce que les États-Unis veulent de Cuba ou on a encore des questionnements là-dessus aussi?
Je pense que ça dépend des membres de l'administration. Un Marco Rubio qui a grandi avec l'imaginaire des exilés cubains, pour qui le régime castriste communiste, c'est un régime maléfique qui doit disparaître. Marco Rubio voudrait probablement un changement de régime. Les autres membres de la Maison-Blanche se contenteraient peut-être de réformes économiques qui permettraient finalement aux Américains de retrouver Cuba comme terre et jeu économique, comme ce que ça a été avant la Révolution cubaine. On verra, on n'est pas malheureusement dans la table de négociation, mais il y a des négociations.
En terminant, Georges, puis on quitte un peu notre créneau international duquel on parle toujours ensemble, parce que tu t'intéresses pas juste à ce qui se passe à l'international. Des fois, tu peux avoir des avis sur différents enjeux qui sont plus près de nous. Et j'ai vu passer pas mal de publications Facebook de ta part sur toute la saga Michael Russo, qui là, ce matin, a annoncé qu'il partait à la retraite. Quel drôle de timing, Georges.
Je peux-tu le dire en anglais? Good riddance. Bon débarras. Michael Russo, Max, là, je veux pas faire une montée de lait, là, mais cet homme-là a été payé plus de 12 millions de dollars en compensation en 2024. Il habite à Montréal, il était à tête d'une compagnie bilingue. Si pour 12 millions de dollars, il veut pas faire l'effort d'apprendre notre langue, ben, qu'il s'en aille au plus sacrant. Cela étant dit, Max, ça me fait beaucoup de peine, parce que peux-tu croire, 70 ans après la Révolution tranquille, au Québec, la nation francophone, on a tant fait, on est encore réduit à demander des démissions. Mais il semble qu'on devrait avoir plus d'audace puis passer à autre chose que demander à une compagnie canadienne de respecter la loi fédérale des langues officielles. Si on avait de l'audace au Québec, on la partirait à notre compagnie aérienne, où on prendrait systématiquement Transat, pas Air Canada. Mais demander des démissions, ça me déprime un peu. Cela étant dit, qu'il s'en aille, c'est une excellente chose.
Mais il est mort de rire, lui-là. Là.
Ah ben lui, il est mort de rire. Il habite à Montréal, parle pas français. De toute façon, il nous l'a dit, hein. Ouais. C'est formidable, à Montréal, on n'a pas à parler français, on peut faire toute sa vie. Ils sont donc gentils, les francophones, ils s'imposent pas, ils nous flattent dans le sens du poil. Fait que lui, je sais pas, il habite où, mais il va continuer à vivre dans le Montréal anglophone, comme une île à part dans l'île, avec ses millions. Il va continuer à penser que les francophones, on est doux, inoffensifs, gentils, une minorité bien, bien sympathique.
Georges Mercier, analyste politique international, toujours un plaisir. Profite bien de la belle Caroline du Nord pour nous.
À bientôt, Max. Merci.
Salut. Au retour, Jean-Philippe Bergeron, pharmacien. On jase des pharmaciens propriétaires qui craignent d'être contraints de devoir couper certains services offerts aux patients en raison d'un amendement au projet de loi 15. Fait que bien des questions, là, puis on va partir de la base. Là, c'est lundi, on va se mettre dans le bain tranquillement. On va se rappeler c'est quoi ça, le projet de loi 15. C'est quoi l'amendement qui met les pharmaciens en beau fusil? On va y aller bien mollo, tout le monde ensemble, pour que tout le monde puisse suivre. Fait que l'ami Jean-Philippe Bergeron, pharmacien, au retour dans le Point de Max, 10h37.